sujet a été choisi sur la précipitation, je me suis demandé si on pouvait philosopher sur un sujet aussi tragique que celui-ci, si ce n'est pas déplacé finalement, réfléchir sur une réalité extrêmement tragique. Et finalement, dans la mesure où la philosophie essaie de comprendre la vie, on va essayer de trouver des réponses, non, c'est pas déplacé de philosopher sur la prostitution, dans la mesure où on relie la philosophie à la vie, et la prostitution fait partie, effectivement, de la vie. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, c'est essayer de comprendre un petit peu les ressorts philosophiques qu'implique la prostitution. Mon exposé va être très simple. D'abord, je vais définir le terme de prostitution et voir un petit peu quels sont les éléments qui composent ce concept, les proxénètes et les clients. Je ferai un bref aperçu historique, à la fois au niveau du vocabulaire employé, c'est assez révélateur, et des différentes lois qui ont marqué l'histoire de la prostitution. Et je viendrai ensuite aux trois questions philosophiques, donc vraiment je ne réponds plus et plus, et je devrai un peu plus ce soir, qui me paraît essentielle. Tout d'abord, la prostitution, c'est 95% des femmes, donc je m'interrogerai d'abord sur l'image de la femme dans la prostitution. Puis, c'est un corps, je m'interrogerai également sur la double dimension du corps, le corps physique et le corps moral. Et c'est un contrat, c'est un consentement, et nous interviendrons sur la question du consentement. Alors, premier point, la définition. Prendre une définition très simple du Larousse, la définition qui dit la chose suivante. La prostitution, c'est l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération. Donc, nous avons la notion d'habitude et de rémunération, de commerce. Un autre sens est intéressant, qui est le sens littéraire, qui est que l'action de prostituer, c'est une action d'avilir, de dégrader quelque chose de respectable. On a ici, dans cette définition, les trois éléments qui, historiquement, vont suivre la prostitution, on en a peut-être aussi aujourd'hui, qui est un commerce qui avile. Si on s'interroge très très rapidement sur l'histoire de la prostitution, on va voir que les appellations des prostituées varient considérablement selon les époques. On a commencé au Moyen-Âge par les appeler des fillettes, des demoiselles, les belles dames qui pratiquaient l'amoureux métier. Au Moyen-Âge, c'était une période tolérante, comme on verra plus tard. C'est là que vient l'expression de fille de joie, puisque c'est se joyeux et se rendre heureux, c'est-à-dire le verbe joie. Et puis, petit à petit, les choses se sont gâtées en termes d'appellation, et à partir du XVIe siècle, on les a un peu plus méprisées dans le lexique, et ce sont devenues des folles femmes, des folieuses, des putains, des ribaudes, des pécheresses. Alors, une des questions qu'on pourrait se poser, qui se rappelle ce soir, c'est comment est-ce qu'on les appelle aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le vocabulaire, le lexique, nous rend compte de notre époque? Alors, comment arrive-t-on à la prostitution? On développera, il n'y a pas qu'une seule prostitution, nous verrons avec mes collègues. Je crois qu'il y a d'abord effectivement une misère morale et une misère économique qui pousse à la prostitution, mais il y a également ce qu'on appelle une mauvaise rencontre. Ça peut être un rap, ça peut être un viol. Dans une société traditionnelle, ça peut être la perte de la virginité, ça peut être à l'encontre des principes de la société, et ça peut être aussi un complément de salaire, une ouvrière qui va profiter de son métier, une petite livreuse, une blanchisseuse qui va profiter de son métier à l'époque pour avoir des clients pour arrondir ses fins de mois, si ce sont de vraies expressions. L'entourage de la prostituée, naturellement, elle n'est pas seule, il y a un proxénète. Alors le proxénète, ça vient du grec Mastropos, qui signifie courtier, c'est celui qui était chargé d'accueillir les étrangers. Donc c'est l'entremetteur. Le proxénète, c'est aussi le tenancier de maison close, ou c'est aussi le macro. Alors, rapidement, l'étymologie de macro vient de l'anglais macraleur, qui signifie la même chose que le proxénète, c'est-à-dire le courtier et l'entremetteur. Ça n'a rien à voir avec le poisson bien connu. Contrairement à ce que je pensais. Le proxénète a un rapport assez particulier. elle n'est pas prostituée, puisque bien souvent, quand on dit proxénétisme, on entend violence, contrainte. C'est, c'est souvent le cas. Mais aussi la relation amoureuse. Il y a des relations amoureuses paradoxales avec le PCR. Des histoires de fin du 19e siècle, début 20e, où une fille se prostitue par amour pour son jumeau, comme on disait à l'époque. Quoi qu'il en soit, ça renvoie quand même à une misère. Hein, il ne faut pas se le cacher. Le client, dernier point, le client, lui, vient, on en parlera, c'est monsieur Clinique. Ça peut aller du pervers sexuel à un bon père de famille. Il y a une typologie extrêmement large du client, mais c'est un sujet que nous abordons certainement tout à l'heure. Historiquement, on peut distinguer, je dirais, trois grands axes, trois grandes périodes pour la prostitution. D'abord, l'Antiquité, les lois de Solon. Solon, c'est d'accord la démocratie athénienne, va séparer la prostitution, qui était à l'origine une prostitution sacrée, qui constituait d'ailleurs un progrès à l'époque, puisqu'on était du sacrifice humain, mais on prostituait, on faisait de l'argent avec la prostitution, donc on ne peut pas d'ailleurs au moment où. Solon va séparer la prostitution de la religion et va enfermer les prostituées dans des établissements spécialisés. Il va récupérer au passage naturellement l'argent que cela générait et ça va être une opération essentiellement politique. Il va définitivement marginaliser la prostituée. Deuxième époque importante, Saint-Louis. Saint-Louis, un roi qui a vu une morale extrêmement rigoureuse et qui, malheureusement, va être obligé de gérer une situation qui est extrêmement difficile à gérer. Puisque la prostitution, il faut le savoir au cours de l'histoire, ne s'est jamais laissée domestiquer. Jamais. L'étude de l'histoire de la prostitution, c'est se rendre compte que, finalement, on essaie de trouver des solutions à quelque chose qui nous échappe toujours. Et ce sera aussi l'objet du débat ce soir. Donc Saint-Louis, lui, va, par la force des choses, réglementer la prostitution, va permettre aux prostituées d'accéder au salut, on va créer des couvents pour qu'elles reviennent dans le droit chemin. C'est une époque de liberté où les choses sont faites de façon, je dirais, beaucoup plus encadrée qu'elles le sont plus tard. 16e siècle, une période d'intolérance, de rejet de la prostitution, violence par rapport à la prostitution, et on peut noter, à partir du 16e, 17e, 18e, donc, le rejet de la prostitution. Rédive de la Bretonne, qui est un auteur peut-être français que vous connaissez peut-être, avait écrit un livre, une utopie, justement, sur la maison close, pour justement sauver les prostituées. Ça s'appelle le port de main. 19e siècle bourgeois, période de tolérance, mais on va cacher le vice dans les maisons closes. Il faut savoir qu'avant, ce qu'on appelait les bourgeois, les bordels, n'étaient pas des maisons closes. C'était des établissements normaux, les sexualités se vivaient librement. Au 19e siècle, on va clore ces maisons, on va les enfermer, on va cacher le vice. Et c'est la période qui commence. À partir de la moitié du 19e siècle, déclin des maisons closes. Et puis, il va y avoir le socialisme, Marx, qui condamne la prostitution, le féminisme qui apparaît à la fin du XIXe siècle, et puis, petit à petit, les guerres, l'usure de la nation, et la volonté de récupérer une pureté aussi, quelque part, de façon un peu inconsciente, et Marc Richard, qui va, en janvier 46, prononcer la fermeture des maisons closes. La fermeture des maisons closes, ça n'est pas la fin de la prostitution. C'est la fin des maisons closes. C'est-à-dire que les prostituées qui étaient dans les maisons closes se retrouvent dans la rue. On gagne toujours quelque part en moralité de fermer des endroits infamés, des endroits honteux, mais le problème est toujours là. Alors, trois implications philosophiques par rapport à ce problème. Tout d'abord, l'image de la femme dans la nature. Une chose qu'on peut constater aujourd'hui, et moi qui m'a frappé lorsque j'ai préparé cette conférence, c'est que on est perpétuellement confronté à l'idée que la prostituée aime ce qu'elle fait, qu'elle prend du plaisir. Et ça, j'ai pu le retrouver, je retrouve la citation, dans un blog que j'ai regardé, c'est « On peut même raisonnablement imaginer qu'elle prend aussi du plaisir dans son activité. » Et c'est aujourd'hui. Tout ça remonte à une longue tradition d'érudits, de philosophes, de médecins, qui ont, à partir du péché originel, considéré la femme comme un animal étrange, qui était tentatrice, dont les organes se promenaient un peu à droite à gauche, c'est Aristote, qu'il faut remplir, la seule raison d'être de la femme, c'est d'être enceinte, ses organes se promènent comme il faut, dont le sexe est un animal à part, constitue chez les Grecs une deuxième bouche, qui peut aussi masculiner les hommes, hein, donc il y a toute une théorie là-dessus. Donc, la femme fait peur, mais en même temps, elle suscite des désirs. Et Platon, Aristote en parle, Galien va confirmer la perfection de la femme, les théologiens du Moyen-Âge vont écrire des pénitentiaires, c'est des véritables livres qui vont être décrits tous les actes sexuels possibles et imaginables, dans des détails extrêmement crus, pour bien diagnostiquer le problème, afin qu'on puisse éradiquer par la suite, par la pénitence, etc. Donc, la femme, par sa configuration physique, sert d'exutoire aux autres. Elle est naturellement destinée à ça. Après les philosophes, enfin les philosophes, après les érudits, qui, depuis le Moyen-Âge, vont inclure cette idée. Elle inquiète, elle effraie les hommes, donc elle doit les apaiser, les calmer. Ça aurait pu être des théories simplistes, mais les médecins du 19e siècle vont relayer ces théories. 1836, par exemple, un médecin qui s'appelle Parent du Châtelet, qui considère qu'il existe un gène, une tare de la prostitution, que ça se transmet héréditairement, que on est prostitué. Et puisqu'on est prostitué, on aime ça. Donc, une autre question que je poserais à Mme Nicolette, c'est qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette image reste aujourd'hui, à notre époque, dans les mentalités ? On pourrait supposer. Deuxième point, le corps physique et le corps moral. La prostitution nous amène à nous interroger sur le statut éthique du corps. Il y a deux légitimités. La première, le droit à disposer de son corps. On peut disposer librement de son corps. La démocratie libérale, nous reconnaît ce droit, elle le protège même. Et puis, on peut limiter ce droit. Limiter ce droit en supposant qu'on n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Là se posent deux théories, la théorie libérale et puis la théorie du corps. Donc, on demande à la métaphysique des mœurs, qui considère qu'il y a le corps et la personne, mais que le corps, c'est. À travers le corps humain s'exprime l'humanité. Donc, si je vends mon corps, je le transforme en chose. Je réifie mon humanité. Donc, l'homme ne serait pas propriétaire lui-même. L'homme ne peut pas être propriétaire lui-même. Sinon, il devient une chose, il devient un objet. Marx aura repris cela. Donc, dans l'optique libérale, la propriété du corps a un sens privé, et l'éthique est personnelle. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon corps, je suis responsable de mon corps. D'un côté, mon corps, c'est une humanité, on est responsable de soi-même, parce que nous sommes des êtres humains. Et de l'autre côté, on est simplement responsable de soi-même. Dans cette optique-là, on a vu l'image de la femme, le point était. Deuxième point, le corps, deux possibilités, se pose la question du consentement. Michel Lamartine, qui est un excellent ouvrage s'appelle Je consens dont je suis, nous dit que consentir, c'est accepter qu'une chose se fasse et ne pas l'empêcher. C'est approuver et souscrire, autoriser et permettre. On a deux visions ici. Une vision négative, ne pas empêcher, et une vision positive, c'est approuver. D'un côté, il y a un acte passif, de laisser faire, et de l'autre, le désir de. Qui sont deux choses différentes. La question du consentement, c'est de savoir si, lorsqu'on n'empêche pas, c'est est-ce qu'on est libre de consentir ? Est-ce que dans le consentement, il n'y a pas d'autres facteurs qui font que le fait de ne pas empêcher n'est pas forcément le fait d'approuver ? Se pose le problème de l'autonomie. L'autonomie, droit de gouverner par ses propres lois, est-ce que consentir, c'est être autonome ? En matière de sexualité, l'éthique libérale considère que on peut étendre la liberté sexuelle tant qu'il y a accord entre les deux parties, accord libre et volontaire des individus capables de s'engager dans un accord sexuel. Je cite Jean Bourdieu. Il y a eu un manifeste qui a été signé par les gens qui est ni coupable ni victime, libre de se prostituer, par Catherine Mouillet, que vous connaissez peut-être en tant que filmeur, qui revendique le métier authentique. Prostituer, c'est un métier, c'est-à-dire un rapport contractuel. Et là, on arrive sur un paradoxe, qui est, un, l'ordre privé, je fais une résistance, j'affirme ma féminité, je me libère sexuellement. La femme s'autodétermine en disant qu'elle est libre de se prostituer, c'est mieux. Et deux, c'est une profession comme les autres, donc soumise à contrôle par l'État. D'un côté, on est de l'ordre privé, d'un côté, de l'ordre public. Si c'est dans l'ordre public, l'État est en charge de la prostitution et assure les formations nécessaires. Et là, le paradoxe, c'est qu'on peut, arriver. Alors, je passe parce que je crois que je suis en train de dépasser les limites. J'en suis à 16, mais j'ai 16. Alors bon, je vais rapidement conclure. Voir la prostitution comme un moyen d'affirmer son autonomie, d'exprimer son consentement, c'est intégrer, à mon sens, le corps dans un système économique dans lequel il est déjà bien impliqué. Si on regarde un peu autour de soi, la société que je dis, on assiste à la réification du vivant. Regardons par exemple en matière d'alimentation des animaux. Les animaux sont des choses, les poulets en batterie, etc. Les mères porteuses qui louent leur ventre, notre rémunération. Toutes les actions qu'on fait sur le corps. Chirurgie esthétique, c'est pas. On a le même risque moralement acceptable. Mais, quelque part, on mène le travail sur son corps. Donc, le système économique d'aujourd'hui semble vouloir tout modifier, tout transformer. Et c'est pourquoi la question de la prostitution, qu'on va traiter ce soir, me semble essentielle parce que, en nous renvoyant à notre humanité intime, elle nous renvoie à l'humanité tout entière. Et la question est de savoir si celle-ci peut ou non se nommer. Voilà, j'ai terminé. Je cède la parole à Maître Julien Condé.
Est-ce que vous m'entendez comme ça
aujourd'hui ? Pour l'enregistrement, il faut prendre le micro.
Donc, 15 minutes, 16 minutes, je vais traiter la prostitution au travers du droit. Et au niveau de l'introduction, j'aimerais déjà parler de la place du droit. Parce que le droit est une des formes de régulation des relations sociales, et on peut se dire qu'il est aussi en concurrence avec d'autres formes de régulation, par exemple la morale, la religion. Je crois que le thème de ce soir, cette conférence est particulièrement sensible, puisqu'on mêle beaucoup la morale, on mêle dans toutes ces histoires. Donc le droit va traiter des comportements, des compromis entre plusieurs influences, et on va voir au niveau de la législation française qu'il y a eu une évolution, mais que parfois il y a un refus manifeste et arbitré, et une forme d'hypocrisie sociale, notamment quand on lit que la prostitution c'est le plus violenté du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est actuellement dans le monde, il y a trois choix possibles sur le plan législatif. Soit la prohibition, et ce qu'on appelle prohibition, c'est-à-dire c'est la répression de la prostitution, et c'est le fait de poursuivre le client de l'acte prostitutionnel. Deuxième possibilité, c'est la réglementation, c'est-à-dire qu'on va encadrer et on va limiter certains aspects de la prostitution. Dans tous les cas, on va dire comment ça peut se faire, à quel endroit ça peut se mettre en place. La troisième possibilité, c'est ce qu'on appelle l'abolitionnisme, c'est-à-dire qu'on décide qu'il n'y aura aucune organisation par la loi de la prostitution. La prostitution n'est pas un délit, mais la prostitution ne sera pas organisée. Ces trois concepts, il faut bien les avoir en tête et se dire que quelquefois il y a des mélanges. Cet été, il y a eu un débat important et notre ministre des droits des femmes, Madame Najat Vallaud-Belkacem, a dit qu'elle était pour l'abolitionnisme. Mais dans sa tête, abolitionnisme, ça voulait dire prohibition. On va interdire la prostitution. Et donc, il peut y avoir vraiment des quiproquos et des malentendus. Alors, au niveau de la France, il y a eu des hésitations et actuellement, il y a un grand débat pour savoir justement si on va aller cette fois vers la prohibition ou si on va rester dans notre système actuel qui est l'abolitionnisme. On rappelle que jusqu'en 1946, il y a eu toutes les étapes que vous avez rappelées, mais qu'il y a eu des mêmes clauses, et qu'à partir de 1946, on a été abolitionniste, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien d'organisé. Mon propos sera en quatre périodes très claires. Un, vous expliquer que sur le principe, eh bien, il y a une impunité du fait constitutionnel. Deuxième partie, c'est est-ce qu'il existe une répression vis-à-vis du client utilisateur du fait constitutionnel. Troisième, est-ce qu'il y a une répression indirecte du fait constitutionnel. Et puis, on fera un tout petit peu de droit comparé, mais c'est que du droit, voir ce qui se passe dans nos pays transfrontaliers, parce que ça peut être aussi intéressant. Voilà, la première chose, c'est impunité de principe du fait constitutionnel. Clairement, la prostitution n'est pas une infraction pénale. Donc, on n'a pas de définition a priori prévue dans quelque code que ce soit. On a même, on nous dit que ça peut être blâmable sur le plan moral, on renvoie à la morale de chacun. Carboyer, qu'on connaît bien en droit, disait que chaque être humain a la responsabilité non seulement de son propre bonheur, mais de sa propre moralité. Et on a la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit que le droit pénal ne doit pas intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relève du libre arbitre des individus. On peut se poser des questions pour savoir si la prostitution, c'est une pratique sexuelle. Moi, je pose la question. Et la valeur du consentement qui peut être donné à l'acte de prostitution, quand on sait, et ce fera partie du débat, que 60% des personnes qui sont en situation d'être prostituées, qui sont prostituées, sont victimes de violences extrêmement graves. Donc, on parlera quand même, est-ce qu'il y a véritablement un consentement ? Alors, au niveau maintenant des définitions, la jurisprudence et la doctrine viennent d'obliger de venir donner des définitions. Parce que si la prostitution n'est pas interdite, en revanche, il y a d'autres choses qui sont interdites, qui sont notamment le racolage et éventuellement l'exhibitionnisme. Donc, il a fallu se pencher sur cette notion de prostitution. Je ne vais pas rentrer dans le détail du jurisprudentiel, j'ai bien vu qu'il y avait au moins un de mes confrères dans la salle, mais je ne crois pas que... Mais quelle est maintenant la jurisprudence à ce niveau-là ? On nous dit que pour qu'il y ait prostitution, c'est le fait de consentir habituellement à des rapports sexuels, mais on va s'entendre sur rapports sexuels, ça c'était ce qui était dit en 1947, avec un nombre indéterminé d'individus moyennant rémunération. Ça c'était la loi. Et puis, on a eu une décision de 1912 de la Cour de cassation qui nous disait que c'était le fait d'employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis. Donc la question qui se posait, en l'occurrence, c'était des jeunes enfants qui étaient dans la rue et qui visiblement étaient exhibitionnistes, faisaient des exhibitions impudiques, et était payé avec l'argent qui était. Et donc, c'était de savoir si vous ou non, c'était un acte de prostitution. La contestation a dit oui, c'est un acte de prostitution. Et puis après, elle est revenue en ça, et elle a été beaucoup plus réservée. Et on dit maintenant, voilà, il faut des contacts physiques, et il faut que ces contacts physiques soient faits à titre onéreux. Donc, on s'est posé la question de savoir si, par exemple, les salons de massage, pas tous, mais est-ce que quand il y a des massages particuliers, est-ce que ce sont des actes de prostitution? Et on a dit, c'est-à-dire que quand on parle, vous parliez tout à l'heure, d'actes sexuels, eh bien, pas forcément. On n'a pas forcément un acte sexuel. Il peut y avoir uniquement des massages, et ça peut être considéré comme étant de la prostitution si c'est payé, évidemment. Donc, voilà au niveau des définitions. Et on a eu, en définitive, une définition très contemporaine qui date de 87, où on nous dit que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui. Et si on rapproche ça du droit romain, dans le droit romain, en 533 après Jésus-Christ, la prostitution, c'était une femme qui se donne publiquement pour de l'argent et non pour le plaisir. Vous voyez qu'on est, quand vous disiez tout à l'heure qu'il y avait encore des gens qui disaient les prostituées font ça pour le plaisir, et bien voilà ce qu'on disait sous Justinien au VIe siècle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a une répression possible du client qui utilise les services prostitutionnels? Non, il n'y a pas de répression du client en fait. Sauf quand la personne prostituée est mineure, et sauf aussi quand on utilise les services d'un enfant, d'un mineur prostitué à l'étranger. Alors, concernant la non-répression, la prostitution du mineur, la prostitution du mineur est interdite. Et on a notamment une loi de 2002 qui l'interdit expressément. Mais pour autant, évidemment, le mineur n'est pas sanctionné, mais le mineur va être considéré comme étant en danger et doit être confié au juge des enfants. Et il doit être éventuellement, il peut être placé, et il relève en quel cas de la protection du juge des enfants. En revanche, le client qui a recours à un mineur, eh bien lui, se voit poursuivi et l'infraction pénale peut le conduire à avoir une peine d'emprisonnement de 3 ans de prison. 45 000 d'amende, 45 000 euros d'amende, et si le mineur a moins de 15 ans, ça va jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Il faut savoir aussi que s'il a été mis en contact par intermédiaire, par exemple, d'Internet, là aussi, parce qu'on ne le voit pas, parce que c'est de la prostitution invisible souvent quand ça se passe par Internet, eh bien, c'est 7 ans de prison aussi. Donc, ça, pour les mineurs, il y a une protection des mineurs. Il y a aussi une particularité, c'est le tourisme sexuel. Là, la loi française va être applicable à l'étranger au niveau des ressortissants français. Et donc ça, c'est une dérogation à deux principes. Et le principe en principe de territorialité, c'est-à-dire que la loi française ne s'applique que sur son territoire. Et c'est aussi une exception à un deuxième principe, c'est le principe de réciprocité d'incrimination. C'est-à-dire que la loi française va s'appliquer aux Français qui vont avoir recours à des personnes prostituées mineures à l'étranger, même si dans le pays en question, il n'y a pas de délit à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu, et on sait que quand cette loi a été mise en place, eh bien, il y a eu quelques recours importants, et notamment en 1997, il y a 6 hommes qui ont fait du tourisme sexuel et qui ont été condamnés à des peines de 5 à 15 ans d'emprisonnement. Il y avait aussi des connotations, des excuses pour viol aussi, mais qui se passaient dans des pays étrangers. Donc ça, il faut le savoir, on en parle un peu moins, mais on nous parle quand même maintenant du code éthique quand on fait des voyages à l'étranger. Dernière chose, existe-t-il une répression indirecte du fait prostitutionnel? Ça, c'est clair que oui. Et c'est le cas du racolage. Puisque le racolage vient de l'expression, de son étymologie, c'est se jeter au cou de quelqu'un. Donc, racoler, c'est une offre explicite de service sexuel payé. Alors, sur ce point, la loi a beaucoup évolué. Avant, on distinguait le racolage passif et le racolage actif. Ensuite, le code pénal en 1994 a retenu uniquement le racolage actif. Et depuis, une loi de 2003, on est revenu, et c'était la loi pour la sécurité intérieure, on est revenu au racolage passif, qui est un délit. Et les personnes qui sont poursuivies sont donc les personnes qui sont prostituées. Et là, on peut aussi se poser la question de se dire, mais si on considère qu'une personne prostituée est susceptible d'être victime dans ce phénomène, c'est la victime qui est poursuivie et le client qu'on laisse complètement en dehors du champ de toute poursuite. Donc c'est vraiment la question actuellement qu'on pose sur le plan en fait. Deuxième élément, on peut poursuivre l'exhibitionniste. Alors l'exhibitionniste, il peut être poursuivi en dehors de la prostitution. Mais souvent, quand il y a des actes sexuels qui se font soit à l'extérieur, soit dans une voiture et qu'on peut voir à travers les vitres, donc il peut y avoir des poursuites pour exhibitionniste. Et là, à ce moment-là, le client lui-même peut être poursuivi pour exhibitionniste. Donc ça, c'est un dernier élément. Et puis, le dernier élément, c'est par la traite des êtres humains. Là, très clairement, on le sait, même si on a des statistiques qui ne sont pas le chiffre noir, hein, la prostitution, mais on sait qu'actuellement, 80%, même j'ai vu jusqu'à 90% des personnes prostituées sont des personnes étrangères. Il y en a un grand nombre qui viennent par la traite des êtres humains, ce qui est évidemment poursuivi pénalement par la loi et très sévèrement par la loi. Et vous comprenez bien que dans ce cadre-là, on a l'impression que les poursuites ne sont pas présentes, ne sont pas suffisantes parce que tout ça se passe dans la clandestinité et on a du mal vraiment à pouvoir prendre les gens sur le fait de son destin. Donc vous voyez que sur le plan du droit français, on a des textes qui existent, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est savoir si la loi va être modifiée. Et là, il peut être intéressant de faire, juste un peu de droit comparé. Vous avez des pays qui sont des pays qui condamnent et qui prohibent la prostitution comme la Suède. Et la Suède, depuis 1999, il y a abolition de la prostitution, qui est considérée comme étant une violence contre les femmes. C'est un frein à l'égalité des sexes dont la base est le respect mutuel. Quand même le rappeler, et moi je suis étonnée de voir qu'on ait autant de discussions et que dans le même temps, on interdise de vendre les organes de son corps, quel qu'il soit, on interdit de vendre son sang alors que le sang se régénère, mais on peut le donner, et on permet de louer son corps pour la prostitution, alors qu'on ne permet pas de louer son corps pour faire un enfant pour quelqu'un d'autre. Mais, et je ne me mets pas, c'est un constat que je fais sur le plan de la législation, et aujourd'hui on est en train de réfléchir si le phénomène de la prostitution doit être prohibé complètement et sanctionné en prenant l'utilisateur, le client utilisateur. Alors la Suède, c'est le client maintenant qui est poursuivi et c'est l'acheteur du service sexuel qui va être pénalisé. Et on dit, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Alors on va en parler ce soir parce que c'est une grande discussion. Tout le monde dit, mais en Suède, il n'y a pas de prostituées. Les prostituées, elles font ça en catimini. Et puis tous les hommes, ils vont dans les pays à l'extérieur et tous les pays autour. Alors ce qui se passe quand même, c'est que justement, la Norvège, l'Islande, la Finlande ont adopté la même loi. Donc il va falloir aller encore dans des pays encore un peu plus loin. On va voir ce que ça donne. Et il faut savoir, par exemple, en Suède, même les soldats suédois qui partent pour aller faire, qui ont des missions pour la Suède à l'étranger, code de bonne conduite, interdiction de recourir à la prostitution dans les pays où ils vont être guerriers. Mais il y a un général qui n'a pas respecté. Ben, quand il est rentré en Suède, c'était sanctionné. Je trouve que c'est pas mal. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, mais si on supprime la prostitution, il va y avoir plus de viols. Il n'y a pas plus de viols en Suède. Par contre, il y a un pays, le Nevada, qui a plusieurs comtés, il y a des comtés qui légalisent la prostitution et d'autres qui ne légalisent pas la prostitution. Et de quoi on s'en compte? C'est que les pays dans lesquels la prostitution est légalisée, on légifère en règlement, il y a 2 à 5 fois plus de viols que dans les autres comtés. C'est une étude. On peut se poser des questions en disant est-ce que la suppression vraiment de la prostitution va entraîner beaucoup plus de délits et des crimes de nature sexuelle. Deuxième chose, les pays qui légalisent. On peut parler d'Allemagne, des Pays-Bas, la Suisse et la Catalogne. Je vais vous dire, c'est que pour moi, c'est un marché d'affaires maintenant, puisque c'est permis et réglementé. Il y a des hommes d'affaires qui sont sur ce créneau. Il y a des rues qui sont interdites aux femmes en Allemagne. Il y a des marchés qui se signent entre des entreprises, hein, dans tout le domaine, certainement pas cité en URL, qui vont se signer dans les maisons closes, qui est une manière d'exclure toutes les femmes d'affaires, hein, parce qu'elles ne peuvent pas aller dans des maisons closes. Et surtout, on se rend compte qu'il y a une exploitation invraisemblable de l'individu. Vous avez maintenant des forfaits limités avec des happy hours. Vous avez des cartes pour les seniors. Vous avez des menus complets qui intègrent saucisses frites, bière prostituée pour 410 euros. Vous avez un prix pour l'écolo qui vient en vélo. Et en même temps, vous avez les femmes qui sont surveillées par caméra. Vous avez les clients qui se sont mis en syndicat, qui ont constitué des syndicats. Et quand ils ne sont pas conformes aux prestations, ils ne sont pas conformes au contrat qu'ils ont signé, ils peuvent demander un remboursement d'une partie de la prestation. Et les femmes sont mises à l'amende. Enfin, vous voyez, il y a une course au profit invraisemblable. En Suisse, à Genève, vous avez un club qui est ouvert, vous savez, un club. Ouvert 24 heures sur 24. Je veux dire qu'on est dans le domaine du capitalisme le plus absolu dans ce domaine-là. Et là où on légalise, de quoi on se rend compte? C'est que les trafiquants, tout ça, ils sont venus sur le marché légal. Mais le marché illégal, il s'est développé encore plus. Et on se rend compte, par exemple, qu'en 2010, 17% des 2600 annonces de services via Internet émanent du secteur légal. C'est-à-dire que 83% des annonces sur Internet, c'est le secteur illégal. Donc ça veut dire que pour moi, la réglementation, c'est une régression du droit des femmes qui sont prostituées, c'est une régression aussi du droit des femmes sans doute, mais c'est surtout un domaine où les trafiquants ont légitimé tout. Je ne parle même pas de la légitimation du client. Et puis le dernier élément, c'est la dernière position, c'est la position de la France actuellement, qui est de dire qu'on ne doit pas légaliser, mais pour l'instant rien n'a été interdit, on ne s'en occupe pas. Donc il y a une forme quand même, on laisse faire les choses comme elles doivent se faire, c'est pas forcément au protecteur, je dis simplement, et on en parlera je pense pendant, et j'arrête immédiatement, je dis simplement qu'il y a eu en effet une mission d'information de la commission des lois qui a déposé un rapport au mois d'avril 2011 qui s'intitule « Prostitution, l'exigence de responsabilité pour en finir avec le plus vieux métier du monde ». Et en fait, donc, il y a une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité, qui est sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui a été enregistrée au mois de décembre 2011, qui permet de créer un délit général de recours, de délit pour recourir à la prostitution, c'est-à-dire de poursuite du client, de l'utilisateur des services de la prostitution, mais qui propose aussi, par exemple, qu'il y ait des stages de sensibilisation. Vous savez qu'on a des stages de sensibilisation en matière de sécurité routière. Et on dit que le fait de voir des films avec des accidents, etc., quand on sort de là, en principe, on lève le pied et on conduit moins. Ben là, on propose de faire des stages de sensibilisation pour voir dans quelles conditions les femmes qui sont prostituées exercent ce. Et il y a un certain nombre de propositions qui sont faites. Pour l'instant, c'est resté lettre morte. Je me dis quand même que les choses, en tous les cas, je l'espère, avanceront. Il faut, et ce soir, je pense que c'est un soir où on doit pouvoir discuter de tout cela et savoir notamment, parce qu'on va avoir une discussion, est-ce qu'il faut être abolitionniste ou prohibitionniste? Ça va être en fait une grande question. Légaliser, alors là je vois que les effets sont extrêmement pervers, mais en fait c'est dire on interdit ou on s'occupe de rien de façon un peu hypocrite.
Merci. La parole.
Non, mais il faut le micro. J'ai oublié de dire que toutes nos conférences sont enregistrées, que vous pouvez les écouter sur notre site, que vous pouvez les podcaster. Et donc, vous avez tout un stock de conférences à votre disposition si vous allez consulter le site. Et c'est ce qui oblige nos intervenants à avoir devant eux un micro.
Je travaille à la Mécabunie depuis un certain nombre d'années. J'ai un parcours professionnel à la Mécabunie en deux temps, de 74 à 77 en tant que jeune éducatrice, et retour comme chef de service en 89. Là, j'y suis toujours en occupée différentes choses. La Mécabunie Et la 46, comme vous l'avez compris, 46, c'est l'abolition du réglementarisme, la fermeture des maisons de cause, et un virage qui n'est pas moindre, c'est que la femme prostituée, de délinquante qu'elle était, devient victime. Mais, donc, même qu'elle venait de la volonté d'un prêtre qui rencontre des femmes prostituées et qui dit qu'il faut les aider, bon, il a une idée assez géniale de, d'organiser par voie de la radio. Avec la bouche sur le témoignage chrétien, d'organiser un vaste réseau de soutien et de faire naître trois lieux d'accueil à Paris d'abord. Cette association s'étendra dans les années 60 en province, au moment où l'État, qui a signé la Convention de Genève assez tard, qui l'a ratifiée assez tard, inscrit dans son cahier des charges d'État la nécessité, dans les ordonnances de 60, d'aller vers les personnes prostituées, de les accompagner et de promouvoir leur insertion par différents moyens. L'unique cabine à ce moment-là s'étend dans différentes provinces, et dont à Lyon. On passe à un système financé par l'État, puisque les associations qui gèrent cette aide aux personnes sont financées par l'État, puisqu'elles exercent en son lieu et place les missions qu'ils s'est imposées de par les lois qu'il a votées. Alors, ça c'est pour vous situer le cabinet, qui était donc confessionnel au départ, qui a toujours été politique, et qui maintenant n'est plus confessionnel, depuis les années 71-70, je ne me rappelle pas exactement. Quand j'arrive en 1974 à l'Italie, j'essaie de vous décrire un peu l'histoire publique que j'ai pu rencontrer pour essayer ensuite de trouver des points collants, des points de dissemblables, et bien aussi, bien sûr. Les femmes qui sont accueillies au foyer sont des femmes qui se disent prostituées, qui se sont installées dans la prostitution pendant des durées assez longues, 5, 10 ans, 20 ans, des personnes de 30 à 50 ans, avec des enfants qu'elles ne sont en général pas en charge, et qui revendiquent d'une certaine manière une identité de prostituée, comme certaines guerres qu'elles auraient pu mener. Je vous fais une description, hein, on peut revenir après sur ce que ça peut vouloir dire. Les enfants, il n'y en a pas au foyer, et on ne parle pas du tout de prostitution masculine à ce moment. Les personnes qui décident d'arrêter souvent arrêtent suite à un événement. La prostitution, comme elles nous le disent, agit un peu comme un anesthésique, c'est-à-dire on y va tous les jours, on y retourne. L'argent se renouvelle, on dépense. L'argent de la base, ben, il passe. On ne capitalise pas. Je connais très peu de personnes qui capitalisaient l'argent, c'est dans les films, c'est l'ensemble d'argent qui était dans un restaurant. Ça n'a pas existé, mais les personnes qui s'adressaient à une cabine, je peux parler que de celle-ci, n'étaient pas dans ces cas-là. Les enfants n'ont pas pris en charge et des vies affectives assez chaotiques. J'ai donc quitté la cabine pour revenir en 80. Déjà, le public que je vous décris, qui s'est installé dans la prostitution pendant plusieurs années, qui s'y est construit une forme d'identité, et j'y reviendrai, parce que ce n'est pas la moindre des choses, a quasiment disparu. Ce sont des femmes beaucoup plus jeunes, avec des problèmes de toxicomanie, qui ont souvent précédé la mise en prostitution, l'entrée en prostitution. Des femmes beaucoup d'origine agricole, c'est toute la période fin des années 80, 90, où il y a beaucoup de jeunes beurs des cités qui ne supportent pas le carcan de la famille, qui ont fugué, des garçons aussi d'ailleurs, mais pour l'instant ils ne supportent pas les cabines, qui se retrouvent à la rue, qui essaient de vivre leur vie comme ils peuvent, et qui se retrouvent bien souvent toxicomanes et se prostituent bien souvent suite à la toxicomanie, puisque c'est un argent, non pas facile, mais vite gagné. À ce moment-là, des personnes qui se revendiquent dans une unité de prostituées, elles sont beaucoup moins courantes. Ces jeunes femmes sont plus dans une sorte d'errance, de désaffiliation au sens de Castel, dans les métamorphoses de la question sociale, sans appui familiaux, se trouvent isolées. Et au début des années 80, j'ai connu le gros virage au niveau de l'emploi en 67, moi j'étais éducatrice dans la cité est de Lyon, où on commençait à avoir plus du travail, oui c'est déjà à cette époque-là. Petit retour en arrière, quand les femmes arrivaient au foyer dans les années 74, quand j'ai commencé à travailler, les femmes de 77, quand elles décidaient d'arrêter, elles allaient au boulot exactement comme elles étaient allées sur tous les jours à la même heure. Et une fois qu'elles avaient retrouvé le créneau qui convenait, elles y allaient. Et ça ne posait pas, ça leur posait pas de problème. On était, rappelez-vous, dans une période où de plein emploi. Moi, je connais beaucoup de femmes qui, évidemment, sur le plan du caractère, le vendredi soir, avaient besoin d'argent, demandaient leur compte, craquaient tout dans le week-end, et puis le lundi, retrouvaient du travail. Ce qui fait que ce type d'échec lié à un comportement ou à des emplois qui n'avaient pas de conséquences, comme c'est qu'on a maintenant, on en parle moins, il vaut mieux essayer de gagner. Alors, évolution, donc début des années 90, beaucoup d'hommes, plus d'hommes sur les trottoirs. Pour l'instant, on ne les accueille pas à la mécanique, en hébergement, sous plusieurs formes, soit de jeunes hommes homosexuels qui se prostituent sous la forme, sous l'apparence d'hommes ou d'autres hommes, soit des hommes travestis qui se féminisent au niveau des seins en prenant des hormones et qui apparaissent sur le trottoir en superwoman plus vraie que nature, toujours pour d'autres hommes, et aussi un public. Des personnes envers transsexualisme. Comme c'est une voie assez étroite, souvent la prostitution paraît être la seule solution pour vivre cette transformation. Puis les personnes allaient jusqu'à l'opération. À l'époque, notre association a commandé ce qu'on appelle une recherche d'action avec des universitaires, donc elle a été menée par un sociologue qui s'appelle qui avait amené à la création du bus qui fonctionne toujours sur Lyon, Cabiria, qui au départ a été créé par Anne Cabuni et qui s'étendait assez rapidement, enfin quelques années, sur une des questions que vous posez. Les collègues au départ de Cabiria, pour eux, la prostitution c'est un métier. Et ils trouvaient anormal, finalement, que nous travailleurs sociaux pour que les personnes des appartements ne fabriquent pas de fausses fiches de paie. C'est une anecdote vraie. Alors que l'Amicabini, tout en disant effectivement que la prostitution n'est pas un métier, parce qu'effectivement, si c'est un métier, il faut aller jusqu'à proposer des formations de prostituées. Donc, vous imaginez que nos gamins, en troisième, au moment d'aller voir le CIO, parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, on leur dit une métier prostituée. C'est ça, dire que la prostitution est un métier, c'est aller jusque. La Nicabuni, bien évidemment, n'est pas du tout là-dedans et considère, selon les valeurs de la Convention de Genève, que, a priori, ce n'est pas compatible avec la dignité humaine. Les mots ont d'abord tous. Donc, scission de la Nicabuni. Évolution toujours du public, donc des personnes plus jeunes, très désaffiliées, dans l'errance, qui ne s'installent pas forcément pendant des années sur un autre. Ça, c'est vraiment le changement, ce qui fait que les personnes connues, jeunes éducatrices, on les appelle les traditionnels. Et puis les autres, on ne sait pas bien comment on les appelle. À l'époque, on les appelle les nouveaux publics. Mais les nouveaux publics continuent d'arriver. On transforme le foyer Bel Air en structure éclatée, ce qui nous permet enfin d'accueillir des femmes avec des enfants et de jeunes hommes prostitués. Accueil difficile, d'ailleurs. Il semblerait que l'entrée en prostitution pour les jeunes hommes, même s'il y a des passés, réponde aussi à une vraie quête d'identité sexuelle et de problèmes d'assumer, ce qui n'est pas facile pour personne l'homosexualité, surtout entre autres dans le milieu maghrébin importé en France. Ça, à l'époque, beaucoup de jeunes maghrébins, 18-25 ans, se trouvent sur le territoire lyonnais. Et toujours l'évolution en vie publique, j'essaie de vous faire un peu court. Début des années 2000-2002, arrivaient deux personnes ukrainiennes, russes, ensuite roumaines et bulgares, et depuis quelques années, beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne, et notamment à Lyon, des personnes nigériennes. Personne. Le Nigeria est partagé entre une faible communauté chrétienne et une majorité de personnes musulmanes. Et nous, nous avons exclusivement sur Lyon, c'est des réseaux qui amènent bien évidemment des personnes, qui facilitent leur entrée sur le territoire, des personnes de la capitale, toutes recrutées de la même manière, toutes avec un discours identique. Demander les papiers comme on demande des récits assez stéréotypés qui, je ne dis pas qu'ils ne correspondent pas à la réalité, mais il est clair qu'ils sont télécommandés dans un premier temps. Ça permet d'avoir un récépissé sur le territoire d'être institution régulière, ce qui arrange bien évidemment le réseau. Alors, je ne peux que confirmer que l'écrasante majorité des personnes que j'ai rencontré dans la vie professionnelle, qui fait un certain nombre, peut-être pas des milliers, mais quand même, ont vécu, mais bien avant l'entrée en prostitution, par quelque moyen que ce soit, des violences. On parle beaucoup d'aide sexuelle. C'est vrai. Au début de ma carrière, j'ai fait une enquête sur les 400 personnes passées au foyer Bélair avant que j'y arrive. On était à peu près sur une 50% d'avoués. Avec passage à l'acte. L'inceste, l'abus sexuel ou l'inceste fantasmé peut avoir des effets tellement aussi dévastateurs que le passage à l'acte dans les faits. Il n'y a pas que les abus sexuels. Il y a des violences. Il y a des enfants battus. La violence, c'est toujours l'intrusion du corps d'autrui sur le sien. Si l'autre, l'adulte, peut user de cette violence, le corps ne vous appartient pas. Je vais résumer, je suis un peu court. Ça, c'est des facteurs qui facilitent l'entrée en prostitution, puisque dans l'entrée, dans la prostitution, on parle d'affaires publiques. On parle de quelque chose qui en principe est privé, son propre corps. Effectivement, le corps constituant, le structurant de la personne, devient public. C'est sûr que quand un enfant n'a pas pu se structurer à sa place, à sa place d'enfant, n'ayant pas accès à la sexualité des adultes, que ce soit d'une manière fantasmée ou réelle par les abus sexuels, c'est évident que ça a des conséquences ensuite sur la manière dont on peut se protéger et se construire à l'intérieur. Et que cette frontière entre nous et les autres, elle est beaucoup moins évidente dans la structuration psychique même du sujet. Ça, je peux vous dire, c'est vrai. Les personnes, alors, bien évidemment, les questions économiques jouent, et je dirais jouent d'autant plus, dans l'afflux des personnes étrangères. Quand j'ai repris le travail à Michael Duny, j'ai fait un stage à la police des mœurs, qui maintenant s'appelle la brigade de préservation sociale, de quelques jours, avec les quelques policiers qui racontaient les trottoirs lyonnais, très peu dans la répression, années 96-17, et qui disait la prostitution a bien changé. Le milieu tel qu'on peut le voir dans les films entre les guerres et tout après-guerre, c'est bien désintéressé de la prostitution dans les années 70, quand les profits de la drogue étaient beaucoup plus intéressants et moins sujets au comportement et gérer le comportement des personnes. Ça, c'était confirmé par la police de Lyon. Il y avait plus ce qu'ils appelaient eux-mêmes des jumeaux casse-croûte, c'est-à-dire une personne qui avait une personne prostituée avec des rapports un peu amoureux, mais qui savent utiliser aussi les besoins affectifs des personnes. Enfin, on est tous satisfaits comme on peut, mais c'est des personnes qui savent souvent bien justement jouer sur un passé un peu chaotique des affiliés pour proposer la sécurité. Ça, c'est vrai, ça fait partie des clichés, mais ça existe. Ceci dit, je connais un certain nombre de personnes qui se débarrassaient assez facilement de leur proxénète, je vous casse pas pour reprendre le terme même des policiers, mais qui, dans l'année qui suivait, s'en retrouvèrent. C'est-à-dire, je pense qu'il y a aussi des structurations relationnelles entre les personnes qui font qu'à un moment, la victime trouve son bourreau, le bourreau trouve sa victime, et que dans la prostitution, il y a des enjeux psychiques bien au-delà des rapports économiques, bien au-delà de la domination des hommes sur les femmes qui est réelle, parce que l'homme, au-delà de la configuration physique, je dirais, au niveau des sexes, la femme, elle peut engendrer. Et la domination des hommes sur les femmes, pour moi, bien évidemment, comme origine, la maîtrise de la maternité, de la descendance. Ça me paraît évident. Ces questions d'enjeux psychiques, je pense qu'il ne faut jamais les mettre de côté. Parce que sinon, ça, c'est trop simple. Il y a les bourreaux, il y a les victimes, il y a ceux qui obligent les autres, et les autres qui sont obligés. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans ce qu'on a pu repérer, alors maintenant on a un petit recul de 10 ans sur les personnes qui arrivent de l'étranger, hein, que ce soit pays de l'Est ou pays africain, c'est vrai qu'on a repéré des constantes, qu'on avait pu repérer dans un public plus ancien, même adolescent, enfin plus âgé, etc. La défaillance de la fonction paternelle reste souvent quelque chose d'assez constant, des violences aussi, et ce qui va avec le phénomène migratoire, hein, prostitution ou non, celui qui s'exile, celui qui décide de partir de son pays, c'est surtout c'est souvent, et ça Goffman le dit beaucoup, sociologue américain des années qui date, mais qui reste vraiment d'actualité, celui qui a le courage de s'exiler. Bien sûr, il a faim dans son pays, mais tous ne partent pas, alors que tous ont faim. Celui qui part, c'est aussi celui qui n'a pas trouvé sa place dans son pays. Symbolique, dans une filiation aussi. Donc, on a ce phénomène au niveau de la migration. Et je pense, il me semble, reconnaître aussi ça, à travers les personnes qui arrivent d'Afrique. Toutes ne viennent pas. Elles sont prises, alors, certaines dans la traite des êtres humains, certes, je parlais plutôt de réseaux organisés, qui fonctionnent dans le recrutement en promettant bien sûr des choses. Moi, à travers le recul de 10 ans avec les personnes étrangères, je dirais les personnes africaines, dans leur grosse majorité, savent très bien qu'il y a une prostitution. Elles choisissent de croire à l'illusion et au mensonge. Je pense que c'est une stratégie de survie liée effectivement. Alors, il y a des pressions familiales, parce qu'il faut aider la famille, elles le disent beaucoup. À un moment, on y va avec l'espoir que derrière, il y a une autre vie possible. Est-ce qu'il se... Je parie que je dépasse le temps. Je crois que, ceci dit, je vais résumer, du coup, nous, notre position, la mienne et celle des collègues avec lesquels je travaille, les travailleurs sociaux, la prostitution, ce qui s'y passe, c'est une question. C'est leur affaire. Nous, elles arrivent dans les services, avec des besoins d'aide, de santé, de boulot. On accueille des personnes qui ont des désirs, des envies. Et ce qui est fondamental pour arriver à trouver comment les aider et bricoler des petites solutions, c'est trouver l'usage qu'elles-mêmes ont pu faire de la prostitution. C'est bien. C'est le pendant de ce que dit, il n'y a pas les mots et les victimes. Les victimes font usage aussi d'un passage dans la prostitution. Je pense que c'est fondamental dans la manière de travailler avec les personnes et de ne pas dire c'est des pauvres victimes et de tomber dans la compassion qui est le pire des pièges.
Alors, en termes techniques, je remets le micro au milieu, on va pouvoir discuter tout ça, s'il vous plaît. Je récupère le micro, mais ce sera un peu mieux pour les auditeurs. Alors, beaucoup de choses extrêmement, vous voyez, c'est difficile de se comprendre en peu de temps, il y a énormément de choses, surtout un sujet aussi c'est important que celui-ci. Alors, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit, ça m'a fait penser, vous parliez que vous disiez qu'il y avait des structures relationnelles dans l'institution, qui étaient que, comme l'exemple de la personne qui retrouvait un souteneur immédiatement après en avoir quitté un autre, moi, ça m'a fait penser au discours de la service volontaire de la Boétie, si vous le connaissez, qui explique que si on accepte de se soumettre, c'est aussi qu'on n'imagine pas la possibilité de vivre autrement. C'est qu'on est capable de non pas perdre sa liberté, mais de gagner sa servitude aussi. Donc là, on est vraiment dans des problèmes qui sont vraiment ancrés dans la philosophie. Et puis alors, ce que j'ai trouvé usant, c'est que tout ce que vous avez dit sur les problèmes qui se posent actuellement dans les maisons closes, avec ces fameux soldats, etc., avec les packages frites, coca, prostituées, mais ce sont des problématiques qu'on retrouve déjà en ligne. Sur les quais Saint-Vincent, à Lyon, il y avait ce qu'on appelait des étuves. Et les étuves, on prenait un bain, on avait un repas, et on avait la prostituée. Et puis, les problèmes des garnisons, c'est en particulier ce qui a fait réfléchir Saint-Louis, parce que c'est le problème des soldats, des garnisons, et la prostitution, c'est vraiment un problème qui est historique, et qui remonte à l'évidemment. Quelque part, on retrouve toute la nature humaine dans les problèmes du jour. Alors, j'avais une question, puis après, vous interviendrez, puis vous demandez sur la parole. On a parlé dans la définition de la prostitution, pour revenir à la position, qu'il fallait donc obligatoirement de rapports sexuels pour qu'il y ait la prostitution. Moi, j'aimerais comprendre comment juridiquement on considère ce nouveau type qu'on a. On suppose être de la prostitution, qui est les masseuses chinoises, qui n'ont rien de sexuel, qui sont sur les plages, j'ai vu un reportage récemment, j'en ai vu à Paris il y a pas si longtemps, sur les trottoirs, également, qui massent sur les trottoirs, et qui sont, elles, dans un réseau mafieux de CDFIE, qui ont un souteneur, qui doivent remettre une somme d'argent. Est-ce que c'est considéré comme de la prostitution alors qu'il n'y a pas d'acte sexuel explicite?
Qu'est-ce qu'il y a comme contact?
C'est un
pseudo-massage
chinois.
Ça arrive d'abord, c'est sur le
trottoir. Sur la plage, vous êtes sur la plage tranquillement, on vous propose un massage relaxant, un pseudo-relaxant avec des huiles pseudo.
Non, mais après, voilà, la question c'est. La définition c'est contact physique de quelque nature qu'il soit afin de satisfaire les besoins sexuels. Est-ce que ça satisfait un besoin sexuel?
Pas du tout.
C'est la détente.
C'est
dans la servitude
d'autrui. C'est une forme de. Parce que c'est considéré. C'est le réseau de prostitution chinoise qui s'occupe de ça. Et ça n'est pas du tout sexuel.
C'est pas sexuel.
Non, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. À partir du moment où il n'y a pas d'acte sexuel et pas d'orgasme, pas d'accouchement, pour moi, ça, c'est pas la prostitution. C'est qu'il y ait des mafieux qui envoient des femmes chinoises en disant qu'il y aura des temps pour les Roumains ou les Bois, qu'il y aura des temps ce soir en difficulté. Ce qui est d'aller l'avance. Par contre, le massage, je peux dire, ça va peut-être apaiser. C'est très apaisant, les massages.
Ça s'appelle le massage anti-stress chinois.
Oui. D'ailleurs,
et donc, ce sont des. Alors, je ne sais pas, mais moi, j'ai une jurisprudence qui dit que ce sont des actes de prostitution. Voilà. Je pense qu'il doit y avoir il doit y avoir quand même une satisfaction de besoins sexuels. Hein. Mais ce qui est étonnant, c'est que ça se passe.
C'était un problème. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce qui a été dit? Où est-ce que c'est déjà...
Il y a des questions à poser.
Oui. Actuellement, la prostitution depuis l'année dernière avec les auditions parlementaires, parlementaires à de nombreuses associations pour mettre ce sujet du jour. Alors, moi qui connais les personnes prostituées depuis très longtemps, il me semble toujours que c'est jamais par hasard, ça arrive dans l'actualité. Et que la morale fait vraiment profit de ce type de sujet. Elle n'en fera pas forcément de ce qui peut amener des personnes à se retrouver de la prostitution. Et j'en ai connu, et je dois le dire, qui s'y mettent volontairement, et croyez-le ou non, jusqu'à 70 ans. Je pense que c'est un peu l'hypocrisie de notre société, cette question. Parce que. Le frein à l'évolution du sexe, il y avait la prostitution, mais qu'est-ce qui fait que la prostitution existe? Qu'est-ce qui fait que il y a de la violence entre les sexes? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore pas l'égalité des salaires en France? Et moi, je me dis que c'est un problème bien plus global de société que la prostitution, mais c'est un os à ranger d'une certaine manière. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des situations difficiles pour les personnes dans la prostitution. Ça, c'est vrai. Il y a des personnes pour qui, et ça, je peux vous le certifier, ça a servi pendant des années d'identité de substitution. Et que ces personnes se sont étayées dans la prostitution. Je parle des personnes traditionnelles, telles qu'on les voit, un peu, qui s'installent pendant 10 ans, 20 ans, dans un quartier, un coin de rue. Et ces personnes-là, elles ont existé et elles n'ont pas été toujours dans la contrainte.
D'accord. Alors, je vais bien parler à vous. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par contrainte? On a tous des contraintes dans notre vie d'adulte qui sont liées à notre enfance, à notre traumatisme, plus ou moins important. Et ces contraintes, on les trouve dans nos comportements, dans la manière dont on va vivre notre vie, dans la manière dont on va aussi éduquer les enfants. Alors, j'entends bien que les enfants qui sont victimes de violences sexuelles ne deviendront pas tous des personnes prostituées. Mais quand on voit que les enfants qui sont victimes, qu'il y a 70% des personnes prostituées des victimes de violences, de maltraitance sexuelle, je dis quand même, moi, que ça m'interpelle et que dans l'enfance, quand on voit ça, il faut que ces enfants soient pris en charge, qu'on ne fait pas forcément. Deuxième, tout à l'heure, vous disiez, vous thinking, la prostitution agit comme un anesthésique, certaines personnes qui vont. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une psychiatre, le docteur Muriel Salmonin, qui préside l'association Mémoire traumatique et victimologie, qui travaille à Paris et qui a fait une intervention sur le traumatisme des personnes prostituées, et qui a essayé d'expliquer l'enfant victime, et qui dit que quand un enfant est victime de violence, il est obligé d'être dans un état dissociatif. C'est-à-dire que ce qu'il vit est tellement violent que pour subsister, c'est comme il y a un tel survoltage, c'est comme le disjoncteur. Et donc il disjoncte dans sa tête, de façon à ce que d'une certaine manière, il voit les choses de l'extérieur, c'est pas lui qui vit la situation, il est obligé de se mettre à l'extérieur pour supporter. C'est sa méthode de survie. Et tout à l'heure, quand vous disiez que la prostitution agit comme un anesthésique, je dis, c'est exactement ce que nous explique ce médecin, à savoir que l'organisme, il a un blocage, il ne peut pas mourir, on disjoncte. Et ensuite, ça veut dire que chaque fois que les gens vont se retrouver dans une situation de violence, et on le sait pour les gamins, ils vont disjoncter à chaque fois pour ne pas mourir. Et donc après, quand ils vont se retrouver dans ces situations et quand ils vont être avec un souffleur, hein, parce que c'est des gens qui sont hyper fragiles, ils n'ont pas conscience de ça, parce qu'il y a beaucoup d'impulsions, c'est la même chose qui se joue. Et dans ce que vous avez décrit, on retrouve ça. Donc on peut dire, mais ça va la guerre. Oui, pas de contrainte, mais la contrainte est liée à quoi? Elle est liée à tout ça, et franchement, je ne peux pas accepter. Moi, je dis qu'il n'y a pas de liberté là-dedans. Ils n'ont pas leur liberté. Et d'ailleurs, ils font un suivi très important pour que cette dissociation, ils soient mis fin à cette dissociation, que les gens, l'objectif, c'est que les gens ils soient autonomes dans leur vie, qu'ils puissent gérer leur vie, qu'ils soient des adultes à part entière. On a tous une part faiblesse, mais là, elle est quand même sacrément importante. Et, là, et je trouve que c'est pour ça que je dis que quand on dit qu'il y a un consentement éclairé, qu'il y a un vrai consentement, non, il ne peut pas y avoir consentement dans la violence. C'est pas possible.
Je répète depuis longtemps que je ne suis pas socialement pas 40, l'économie, ça n'existe pas, nous sommes tous en situation d'interdépendance. Quand j'entendais des éducateurs dire qu'il faut qu'elle arrive à vivre toute seule, mais personne ne vit toute seule. Donc il y a des termes comme autonomie que j'utilise avec parcimonie. Alors moi je connais ça moi, bien évidemment, et je trouve que c'est très intéressant. Les théories qu'elle développe, hein, je pense que ce n'est pas seulement une théorie, hein, il y a beaucoup de choses tout à fait. L'érudit qu'elle a eu suffisamment d'expériences cliniques pour en tirer derrière des conclusions. Derrière, ce qui me gêne chez cette psychiatre, c'est la manière dont elle voit le traitement. C'est-à-dire que pour elle, on parle du traumatisme, on est tous à nu, et hop, les gens disent moi, je fais exprès de caricaturer. Mais c'est un petit peu ça. Et si c'était si magique, tous les gens qui vont pas bien, qui ont des comportements en répétition, et puis nous-mêmes, hein, d'ailleurs, si on cherche bien, on a ben, tous des trucs qui clochent, eh ben, hop, on est une bonne psychanalyse, on parle aussi, on fait ce qu'il faut, et puis c'est terminé. C'est faux. Et derrière, si vous voulez, ce discours peut s'adresser. On ne peut pas l'accepter, nous, en tant que travailleurs sociaux, qui en vont à faire quotidiennement avec les personnes dans les avancées qu'elles vont pouvoir avoir pour vivre à partir du moment où elles ont décidé d'arrêter la prostitution. Arrêt qui n'est jamais aussi net qu'on peut le croire. Autant les personnes traditionnelles qui passaient 20 ans, elles décidaient d'arrêter, et avec toujours une période, au bout d'un an, deux ans, elles allaient vérifier si elles allaient avoir leur place ou pas. Ils retournaient un mois, six mois. C'était une manière de juxter deux identités. L'ancienne, celle qu'on retrouvait, qu'on essayait de construire et de vérifier où était sa place. Avec les jeunes venus d'Afrique, l'arrêt de la prostitution n'est jamais aussi net. C'est vrai qu'en venant, elles ont le système des réseaux africains, c'est de dire on te fait venir en Europe, tu nous dois tant. En gros, en termes de 50 000 euros. Et tu dois payer ça. Mais eux, ils n'ont pas intérêt à maintenir les gens de force. Plus comme, comme il y a des 50 années ou comme dans les siècles passés. Parce qu'une femme qu'on maintient de force, c'est une femme qui ne va pas mettre, c'est là où c'est particulièrement fin des prédateurs, on peut le dire. Une femme qui a plus trop envie d'y aller, mais elle ne va rien apporter. Il vaut mieux amener d'autres femmes. Et ça marchait aussi beaucoup avec les personnes psychologues. À un moment, tant qu'elles étaient dans une gestion à peu près correcte de la drogue, ça pouvait être intéressant de l'utiliser comme un rapport d'argent. À un moment, ça ne marche plus. C'est effectivement des hommes d'affaires. C'est bien organisé. Après, là aussi, où je dis, c'est sympa, c'est très bien quand les parlementaires s'interrogent sur le sort des personnes prostituées, mais la loi de sécurité intérieure a institué dans l'article 76 le fait que si une personne étrangère porte plainte, que derrière il y a des arrestations, elle doit avoir des papiers et on doit lui donner toute l'aide nécessaire. Dans la réalité, je peux vous dire, bien placé pour vous dire, que ces personnes-là, ils vont. La police va leur tirer tout ce qu'ils peuvent pendant des mois. Elles vont avoir une autorisation pour une sorte de séjour pendant trois mois, donc inscription un peu, très mal. Donc il faut déjà passer par ce stade d'apprentissage. Sinon, les moyens ne sont pas donnés pour que la loi soit appliquée. Ça, c'est sûr. Par contre, la pénalisation du client, pour nous, enfin, c'est pas une bonne chose. On a déjà vu les effets pervers des décrets municipaux chassant les camionnettes de plus en plus loin du centre. Ça éparpille les personnes, elles sont de moins en moins. On ne peut plus faire une mission de aller vers. Elles deviennent plus clandestines et en étant clandestines et non visibles, elles sont encore plus éventuellement la proie elles ont moins accès à ce qu'il aurait dû, entre guillemets. Elles ont beaucoup moins accès. Et en tout cas, nous, on ne peut plus faire ce que si on veut d'aller. C'est une question. Je pense que les chevaux ont pris bien à la base. Bien antérieurement.
Mais quand on voit en Suède, alors évidemment, ça date de 99, donc il y a quand même un délai suffisant. Ce qui se dit aussi, c'est que les trafiquants se rendent compte qu'en Suède, ils ne peuvent plus faire trafic avec les femmes. Donc, ça est beaucoup moins intéressant, le trafic de la prostitution va avec le trafic de drogue. Et donc, c'est vrai que la Suède a moins de trafiquants. Je me dis, mais ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi. C'est-à-dire que tout va avec. Donc, pour moi, le fait de dire que tout part dans la clandestinité, ce qui part dans la clandestinité, c'est quand on légalise. Parce que là, en effet, tout le monde, ça légitime toutes les positions. Et ceux qui veulent se faire beaucoup d'argent, ils vont avoir un pied dans la légalité, ils vont avoir un énorme pied dans l'illégalité. Parce que de toute façon, ils pourront jouer. Si c'est complètement interdit, alors là, les choses sont différentes. Donc, je me dis, en tout cas, ça vaut le coup de réfléchir et de voir ce qui se passe dans ces pays sans être naïf. Il ne faut pas que...
D'accord. Je veux dire quelque chose. Je suis directrice à l'Académie. On a dit une chose aussi, même par rapport à la question de la pénalisation du client, c'est qu'actuellement, on parle de la prostitution visible. C'est la prostitution rue et route. La question, c'est qu'il y a une prostitution non visible et de plus en plus, qui se développe par Internet. Et actuellement, de plus en plus, on a une cybercriminalité liée à la prostitution, liée à Internet. Et ça, de plus en plus. Je pense que c'est aussi quelque chose aussi important aussi à prendre en compte. Et de plus en plus, même la police, etc., même les organisations policières, le crime d'organisation de la traite des êtres humains, a de plus en plus de mal aussi à repérer aussi tous les réseaux qui bougent dans le monde entier et qui se mondialisent. Et ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte.
Mais que la prostitution, je disais tout à l'heure, La
prostitution étudiante, hein, actuellement on travaille avec le service social du CROUS et enfin on n'est pas le seul, avec d'autres aussi dans d'autres villes, sur la question de la prostitution étudiante, on sait qu'elle existe, mais c'est vrai qu'on a énormément peu de données et, par rapport à cette... mais on sait qu'elle se passe essentiellement par internet.